France Culture.
Pourquoi partir ? Partir où ? Partir vers où ? Devant quoi ? Vers quoi ? L'ombre coupée de la lettre blanche.
N'avez-vous pas froid ?
J'écris mal. Tu dis que tu ne comprends pas. Les mots en vrac, pour toi, phrases incohérentes, pèsent en morceaux de la vie en miettes. Tu ne lis pas, tu dis que mes lettres sont longues. Excuse-toi, tu perds patience en face des mots seuls, des mots solitaires, bric-à-brac des mots, quand j'arrête de vivre pour écouter battre mon cœur, l'intelligence en débandade, spectateur de moi, soupir malhabile, extrait avec tant de peine que je te jette au hasard, comme je peux, phrase embrouillée, ma petite grammaire balbutie pour toi. Ce reste d'amour, des mariages usés, mais combien de peine d'aller jusqu'au fond, avec les longues mains du cœur, à la recherche du reste des vérités. Ne te plains pas de voir du vrai, si difforme en soi le dessin. Te souviens-tu, ma chérie, de nos blondes fiançailles ensoleillées dans la splendeur des genèses, des moissons, des paysages, ensemble flambant d'amour et de beau temps ? C'est une phrase. Souviens-toi des phrases. Celle-ci te plaît-elle ? L'aimes-tu ? Veux-tu des phrases ? Viens, reviens. Je te ferai des phrases, puisque tu les aimes. Mais le temps n'est plus aux phrases.
Hélène Bessette, La rage d'écrire.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu son écriture manuscrite ?
Je vous dirais bien, c'est l'écriture de maman. Toujours connu ça. Parce que quand j'étais au lycée, j'étais interne, j'avais le droit de recevoir des lettres de ma mère au lycée. Elle m'écrivait toutes les semaines. Je m'appelle Patrick Brabant. Je suis né le 13 août 1946 à Marseille en attendant le bateau pour Nouméa. Ma mère, Hélène Bessette, était très inquiète de savoir si le bateau attendrait que je sois né pour pouvoir nous emmener tous les trois avec mon frère Eric. C'est une écriture de quelqu'un qui écrit vite. Il n'y a qu'à voir la façon dont elle fait les ailes, hein. Elle ne perd pas le temps à faire la boucle. Hein. Mais c'est une écriture qui coule bien, elle a le poignet souple. Tout est dans les arrondis. Les T sont comme des croix plantées dans son texte.
Alors moi, je découvre Hélène Bessette en 2000, je suis étudiant en histoire.
Julien Doucineau, biographe d'Hélène Bessette.
Et pour payer mes études, je suis libraire chez Joseph Gibert, à côté de la Sorbonne. Au rayon Beaux-Arts, et c'est mon collègue Nicolas Lacaze qui me parle pour la première fois d'Hélène Bessette. Comme beaucoup d'étudiants à 20 ans, je dis Marguerite Duras. Et c'est lui qui me dit « Oh bah, si tu aimes Marguerite Duras, tu vas aimer Hélène Bessette. » Elle lui a tout piqué. Et en fait, c'est lui qui me confie mon premier livre d'Hélène Bessette. C'est « N'avez-vous pas froid ?» que je vais lire dans les jardins du Luxembourg, juste à côté. Et en fait, moi, j'avais jamais lu ça. Et je décide de mener ma première enquête sur cette romancière. Et c'est ce qui me conduit justement ici, chez Gallimard. Elle venait de mourir, en fait, l'année où je découvrais son œuvre.
Il y a la fameuse aventure des 10 valises, 10 énormes valises pleines de manuscrits que nous avons gardées. Et un jour, quelqu'un est apparu en nous disant « Je suis intéressé par Hélène Bessette, est-ce que vous auriez des choses à me raconter, à me dire ?» C'était Julien Doucineau, et c'est lui qui a hérité des 10 valises.
Et c'est un peu la première fois qu'un étudiant vient frapper à leur porte pour demander des informations sur la vie d'Hélène Bessette, écrivain. Pour eux, c'était une institutrice, oui, une femme de ménage, oui, une écrivain sans doute. Et très généreusement, ils me disent « si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer ces valises. » Et c'est comme ça que je plonge dans 15 valises qui, une fois ouvertes, révèlent un trésor inestimable, à savoir les lettres de Raymond Queneau, de Jean Dubuffet, des critiques comme Alain Bosquet, les manuscrits, les inédits, les poèmes, les peintures aussi, parce qu'elle s'est essayée à la peinture. Et il me faut 2 ans pour commencer à y voir un peu plus clair dans toutes ces archives et à reconstituer et son parcours éditorial, mais aussi sa biographie, parce que c'est une vie qui est une vie roman.
Si la vie d'Hélène Bessette est un roman, c'est un roman haché, fracturé, fragmentaire. C'est un roman qui crie, qui proteste. C'est un roman sans intrigue, c'est un roman paysage, c'est un roman moderne. La littérature vivante, pour moi, pour le moment, c'est Hélène Bessette. Personne d'autre en France, écrit Marguerite Duras dans une pleine page de L'Express en 1964. Née à Levallois-Perret en 1918, Hélène Bessette a été institutrice, missionnaire auprès de son mari pasteur en Nouvelle-Calédonie, femme de ménage en Angleterre, mais aussi et surtout écrivaine. Soutenue par Raymond Queneau, Michel Léris, admirée par Nathalie Sarraute ou Simone de Beauvoir, celle qui est à l'origine du roman poétique publie 13 romans chez Gallimard entre 1953 et 1973. Et puis, plus rien. Fin du roman. Roman sans personnage. Roman diminué. Après un procès en diffamation et outrage aux bonnes mœurs, on ne publie plus de Bessette. On ne la vend plus. Elle est introuvable. L'écriture, elle, ne s'arrête pas. Ne s'arrête jamais pour Hélène Bessette. Dans les années 2000, quelques-uns, quelques-unes se souviennent d'Hélène Bessette, l'admirent, la lisent, la font passer de main en main avec enthousiasme et frénésie. Peu à peu se forme un cercle de poètes autour de Claude Royer-Journoux qui cherche à comprendre cette énigme éditoriale. L'autrice Laure Limongi est la première à œuvrer pour la réédition des livres d'Hélène Bessette aux éditions Léo Cher en 2006.
En fait, je connaissais Hélène Bessette grâce à Claude Royer-Journoux. Quand j'étais toute jeune, je déjeunais en bas de chez lui un printemps où il faisait assez froid. Je m'étais mise en terrasse et j'ai tout de suite regretté la chose. Et je me suis dit, tiens, mais Claude Royer-Journoux, il me semble qu'il habite dans cette rue. Et en fait, d'un coup, j'ai vu devant mon champ de vision « N'avez-vous pas froid ?» d'Hélène Bessette. Donc Claude habitait juste au-dessus. Il l'a fait descendre avec un fil de pêche. Donc, ce qui prouve qu'il était très observateur de ce qui se passe autour de lui. Et à l'époque, Claude achetait vraiment des caisses d'Hélène Bessette à tour de bras. Il est bien connu à la librairie Gallimard pour les offrir parce qu'il était révolté contre la disparition de cette autrice.
Patrick Brabant.
C'est une enfant non désirée et sa mère le lui a bien fait sentir. Une enfant dont, comment dire, ma grand-mère, elle a toujours cherché à s'en débarrasser. Elle la mettait en pension. Loin, elle la voyait pas. Elle la voyait peut-être une fois par semaine, au maximum.
Et elle avait une sœur, je crois. Demi-sœur, peut-être.
Alors, oui. Ma grand-mère a été mariée une première fois avec un monsieur Oran, avec qui elle a eu d'abord une fille en 1909, qui s'appelle Adrienne.
Votre tante qui est donc...
La destinataire de l'élégie pour une jeune fille en noir.
Et également le personnage de Lily Pleur.
Et également le personnage de Lily Pleur.
Donc, et la relation entre Hélène et sa sœur.
Adrienne, elle était, je dirais, limite fusionnelle. Parce que, oui, quand je dis que ma grand-mère mettait ma mère en pension dès son plus jeune âge, mais elle mettait son autre fille avec, souvent. Donc Adrienne, quelque part, ça a été la petite maman d'Hélène. Elles avaient 9 ans d'écart, et elle s'est occupée d'elle de manière extraordinaire. Tout le temps, elle l'a chouchoutée. Et puis quand on est 2 frangines dans une famille d'accueil, ça resserre les liens, forcément.
Elle est née d'une mère parfumeuse et d'un père chauffeur de taxi.
Julien Doucineau.
Officiellement, son père était chauffeur de taxi, mais l'a abandonné à la naissance. Dès les premières années de sa vie, elle a une enfance un peu compliquée. Elle écrit très vite, mais il y a déjà dans son enfance un événement un peu qui va développer chez elle un fort sentiment de persécution. C'est le moment où sa mère découvre qu'elle écrit dans des journaux et de la poésie et qu'elle s'inquiète du ton déjà alarmiste de ses écrits et qu'elle l'emmène chez un médecin, le médecin de famille, pour avoir son avis sur la teneur de ses écrits. Et à l'époque, le médecin et sa mère s'entendent pour dire qu'il ne faut pas écrire, que c'est trop désespéré et désespérant.
Donc voilà, sa mère a commencé à stresser, le médecin de famille a stressé, tout le monde a stressé.
Laure Limongi.
Elle était très bonne élève, donc il fallait qu'elle aille à l'école normale, enfin qu'elle fasse l'école d'institutrice de l'époque. Alors qu'Hélène Bessette, elle voulait, elle avait déjà des velléités littéraires et elle espérait pouvoir aller à l'université. Mais sa mère a tout fait pour que ça ne se fasse pas et qu'elle soit très tôt au travail, aussi pour des raisons économiques évidentes.
Elle devient institutrice, oui. C'est un métier qu'elle n'aime pas du tout. Et en 1939, elle épouse René Brabant, qui est pasteur. Et ils vont partir après la guerre, en 1946, en Nouvelle-Calédonie, en effet, à Nouméa, où René a une mission d'évangélisation. Elle va y passer 3 ans, de 1946 à 1949, et c'est véritablement là qu'elle se remet à écrire. En fait, René Brabant et elle s'occupent d'une revue qui s'appelle Évangile Sud, une revue d'évangélisation, comme son nom l'indique, et qui va servir de laboratoire à Hélène Bessette. Et notamment, elle va commencer un roman feuilleton dans cette revue qui s'appelle Marie des Oublis. Ce roman feuilleton est repéré par l'ethnologue Maurice Lénart, qui est à l'époque en Nouvelle-Calédonie, justement, qui va lui-même transmettre ce roman à son ami Michel Léris, qui en parle à Raymond Queneau.
J'ai rencontré Albert. Albert m'a premièrement demandé combien je gagne au mois. Deuxièmement, il a dit que je ne dois pas aller voir ce film, qui est trop sérieux, que lui préfère le comique, et que nous ne nous accorderons pas là-dessus. Troisièmement, il m'a envoyé cuire un poulet, afin d'évaluer mes aptitudes dans le domaine culinaire. J'aime les yeux brouillés aux tomates et les tartes aux cerises. J'aime le rouge. Le poulet d'Albert ne comportait aucun rouge. Sur ce, Albert a dit « Dans ta situation, Désiré, il ne faut pas se montrer difficile pour refaire sa vie. Difficile je suis. Tant pis pour Albert. J'ai fait une colère à cause de l'expression « refaire sa vie ». Nous nous sommes quittés fâchés. Il ne viendra pas à mon enterrement. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas besoin d'Albert pour mourir et je n'ai pas besoin d'Albert pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un homme, ni pour vivre, ni pour mourir. » Si je me suicide, ce n'est pas par manque d'hommes. C'est tout le contraire. Par les temps qui courent, on en a plus qu'on en veut des hommes. Et cette obsession, cette mode, cette garantie de bonheur, disent-ils, cette propagande du couple à tout prix m'épuise. Et dans la tombe, enfin, je serai seule. Enfin, moi, femme, j'aurai le droit d'être seule, sans homme. Dame, seule, 30 ans, ne cherche plus personne de compagnie. Enfin la liberté d'être moi-même, là-bas, du côté des chrysanthèmes en pot. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais toute seule? Tu t'ennuies ?» J'ai répondu « 100 fois plus avec toi » et j'ai claqué la porte.
Si, 1964.
Son pasteur de Marie s'est mis en ménage avec la nounou des enfants. Donc, il y a divorce, séparation. Et chose étrange à l'époque, il sépare les enfants d'ailleurs. Puisqu'elle part avec l'aîné, qui est Eric, et Patrick reste avec son père en Nouvelle-Calédonie. Donc elle se retrouve seule. À l'époque, quand même, un divorce comme ça, même si elle n'est évidemment absolument pour rien dans cette affaire, le déshonneur est quand même du côté de la femme. Donc c'est très très dur, et elle se retrouve à rentrer en France, à faire son métier d'institutrice avec cet enfant, mais dans des conditions vraiment complexes, petits espaces de vie. Et puis, c'est mal vu d'être une divorcée seule avec un enfant. À cette période-là, il est impossible pour une femme seule d'avoir une vie tranquille. Enfin, c'est pas possible. Il faut avoir un père, un mari, enfin quelque chose, mais... Et elle raconte dans Si, notamment, qu'aller au cinéma, parce qu'elle est très très influencée par le cinéma aussi, hein. Aller au cinéma, alors qu'elle adore ça seule, c'est strictement impossible. Donc elle se sent vraiment dans l'étau de cette société de l'époque.
Et le 4 décembre 1952, Queneau, convaincu par la qualité des manuscrits qu'Hélène Bessette lui a envoyés, notamment par Lily Pleur, qui va être le premier publié chez Gallimard, va lui faire signer un contrat pour les 10 livres à venir. Sans doute le bureau d'à côté d'ici. C'est le début de sa carrière d'écrivain, on peut dire. Le même jour, elle avait rendez-vous au Seuil. Paul Flamand et Francis Janson l'avaient convoqué le même jour avec les mêmes intentions de la publier, parce qu'ils ont le sentiment de tenir un écrivain qui a des choses nouvelles à dire. C'est d'ailleurs ce qu'a exprimé Raymond Queneau à la lecture de Lily pleure. Il l'écrit dans une lettre à Hélène Bessette où il lui dit « Enfin du nouveau ».
« Pourquoi n'es-tu pas venu dimanche ?» dit la mère. « J'avais tout préparé. » Elle ne sait pas, cette mère Charlotte, que le bonheur ne vient jamais comme on voudrait. Et cette fois encore, c'est le bonheur décalé. Le bonheur sans décor. Le bonheur tout seul. Le bonheur tout de même. Le bonheur de nous revoir, dit Lily. Est-ce que ça ne compte pas ? Je ne sais pas pourquoi, dit la mère Charlotte. J'ai besoin d'un décor au bonheur, d'une mise en scène réglée par moi-même. Comme si je ne pouvais pas accepter le bonheur tel que. Il faut toujours que je m'en mêle. En somme, je pensais plus aux œufs mimosa qu'à ma fille. Qu'est-ce que ce manteau que tu portes ? Il te va mal ? Est-ce lui qui l'a choisi ? Et tu lui plais dans ce manteau ? Il n'a pas beaucoup de goût ? Ton chapeau ne te va pas. Et tes chaussures sont bon marché. Où les as-tu achetées ? À Prise Unique ? Nous ne sommes pas très riches, dit Lily. Nous sommes jeunes. Nous ne faisons que commencer.
Lily pleure, 1953.
Je n'ai jamais vécu avec ma mère, pratiquement. Mes parents ont divorcé, j'avais l'âge de 3 ans. J'ai été confié à mon père et à sa nouvelle femme. Donc, je voyais ma mère rarement, un peu pendant les vacances. La seule connaissance de son activité littéraire que j'avais, c'est qu'elle me donnait, chaque fois qu'elle écrivait un livre, elle m'en donnait un exemplaire. Donc, je savais qu'elle écrivait. Mais savoir comment elle vivait ça, alors ça a été une découverte considérable. Et ma mère disparaissait, de temps en temps elle réapparaissait, mais elle parlait peu de ce qu'elle faisait, elle ne se confiait pas, elle a toujours été très, très fermée, elle était en révolte permanente contre les éditeurs, les journalistes, les protestants, etc. Bref, tous les milieux auxquels elle avait eu affaire.
Qu'est-ce que c'est d'avoir Hélène Bessette comme mère ?
Beaucoup de choses. Et je crois que le sentiment dominant, c'est quand même la fierté.
Il est très facile d'écrire des romans. Enfin, naturellement, il y a beaucoup de gens désagrégés. Je ne sais pas si M. Roland Barthes, par exemple, serait capable d'écrire un roman. N'est-ce pas ?
Hélène Bessette, sur France Culture, en 1967.
Pour en discuter sur la façon dont il les analyse, on peut se demander s'il serait capable d'en écrire un. Mais il est très facile pour un certain nombre de gens qui sont ou licenciés ou agrégés, n'est-ce pas, d'écrire des romans, comme il est facile d'écrire des poèmes. N'importe quel licencié peut écrire un poème. On peut se mettre à étudier la prosodie, l'art poétique, on est poète. Si on a de l'argent, on fait étudier à ses frais. La haute littérature, n'est-ce pas, il faut lire Queneau. Queneau n'en a pas 50. C'est peut-être un avantage, d'ailleurs.
C'est vraiment une autrice qui a fait bouger les lignes. Alors, elle est contemporaine du nouveau roman. Donc, c'est vraiment dans cette mouvance. Elle n'est pas sur la photo du nouveau roman, ce qui explique bien des choses quant à sa disparition. Mais pour moi, c'est vraiment ce point de bascule. Hélène Bessette, elle refuse beaucoup de choses dans le roman, notamment une sorte de simplicité de la narration qui pourrait être un petit peu lénifiante. Alors pas par goût de la complication, mais par goût d'une sorte de sincérité par rapport au lecteur et au personnage. Donc tout ce qui est psychologisant, toutes les recettes éculées, ça l'intéresse pas du tout. Et surtout, elle a une vision artiste de l'écriture, puisqu'elle fait le constat, elle le dit dans le résumé, qu'elle a l'impression que la littérature de son époque a 50 ans de retard par rapport à d'autres arts d'avant-garde, que ce soit la musique, les arts plastiques. Et elle se dit, mais pourquoi donc le roman doit-il continuer à être un gentil petit produit bien docile, fait par de gentils petites agrégés? Bon, elle a des mots un petit peu méchants parfois dans le résumé là-dessus. Elle s'empare vraiment de l'écriture comme d'une matière quasiment plastique. Elle décide qu'elle va en refaire autre chose, d'où son fameux roman poétique, le fait d'intégrer des éléments de poésie dans le roman, à travers notamment la spatialisation sur la page d'un texte qui pourtant reste un texte romanesque, en tout cas c'est pas 100% de la poésie. Elle a quand même décidé de prendre une physicalité du texte en charge, mais aussi une question de voix. Il y a évidemment aussi beaucoup de voix dans cette façon de d'écrire en capitale. Donc elle intègre à la fois des voix criées, beaucoup, une sorte de paysage textuel. Donc pour moi, elle est en cela complètement révolutionnaire.
Pourquoi la littérature ne se dégagerait-elle pas de la tradition littéraire ? La vague intellectuelle a pétrifié ce qui, par essence, est vivant, l'art et son mouvement. La jolie langue de Ronsard n'était-elle pas parfaite ? Pourquoi l'avoir transformée ? Pourtant sont venus les classiques. La perfection harmonieuse des classiques n'était-elle pas suffisante ? Pourtant sont venus les romantiques. La richesse luxueuse des romantiques, si abondamment présente dans Chateaubriand, n'était-elle pas incomparable ? Pourtant sont venus les réalistes, les naturalistes. Le langage poétique est forcément celui des temps difficiles. Il est celui de la souffrance et l'expression quotidienne normale d'un temps de guerre. Dans un monde bruyant, angoissé, une phrase qui se fait entendre. Une phrase qui doit être lancinante et douloureuse. Voisine du jazz. Qui retient l'attention. Cruelle peut-être. Ce qui prouve qu'elle est à sa place.
Dès 54, elle va écrire ce qui s'appelle le manifeste, qui va devenir un paragraphe du résumé. Le résumé étant sa revue de théorie littéraire. Et puis en 59, elle fonde seule le gang du roman poétique, le GRP. Trois lettres qui vont lui permettre de signer les tracts qu'elle envoie aux journalistes, à ses éditeurs, et qui sont le fondement de sa théorie littéraire.
1959, GRP. Gang du roman poétique. Guerre du style. Halte là, murs enfoncés, portes ouvertes. Les libraires ne sont pas les plus forts. Sans compte en banque, sans famille. Sans amis, alliés et sans connaissances. Sans politique. Sans souvenir de guerre. Ni amour, ni argent. En marge du temps. GRP quand même.
Pourquoi c'est plus qu'un roman, le roman d'Hélène Bessette ? C'est qu'elle elle y intègre tous les autres genres. Dans le roman d'Hélène Bessette, il y a du théâtre, presque de la peinture. La couleur est très forte. Il y a du collage, des slogans publicitaires. De la musique, évidemment. C'est les débuts de la musique électronique, mais elle s'intéresse déjà beaucoup à ça. C'est un roman vraiment qui se sert de tous les autres arts pour essayer d'exprimer ce qu'a toujours voulu exprimer le roman, à savoir les grands désarrois d'une époque, quoi, mais sous une forme nouvelle.
Elle procède par hypothèse et elle pousse l'hypothèse le plus loin possible. C'est complètement incroyable de commencer, par exemple, Garance Rose, en disant « l'héroïne est absente ». Qu'est-ce qu'on fait ?
Claudine Huneau, metteuse en scène, écrivaine et psychanalyste.
Ou alors, dans Grande Balade, à un moment, le personnage principal se trouve après le mot « fin ». Elle nous débusque en permanence dans le désir que nous pourrions avoir de nous installer dans une narration, voire même d'y tricoter une certaine logique, des caractères, une psychologie, etc. Et à ce moment-là, elle nous envoie la porte dans le nez. Elle dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc on croyait être avec un personnage, tout d'un coup elle dit mais ce n'est peut-être plus ce personnage-là, ou comme dans Grande Balade, l'héroïne change de nom, tout d'un coup. Ah, maintenant c'est Émilie. Et donc elle nous maintient dans une sorte d'état d'éveil poétique en fait, où on se laisse surprendre et elle nous emmène très loin. Enfin, quand on voit que dans Suite Suisse, elle peut aligner des annonces de décollage et d'atterrissage d'avion, et en fait, ça fonctionne. Dans si, il y a des 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, non, 3, 7, 3, 7, 3, 7, GRP, GRP. Et elle va comme ça donner toute une succession de sigles, de codes, de chiffres. Et puis tout d'un coup, on repart, décembre clément, etc. Et presque ça redevient extrêmement littéraire, je dirais, avec une, par moment même, une forme de lyrisme. Ça qui est étonnant chez elle. Comme dans un rêve. Embarquement pour l'étrange. Inoubliable. Une ouverture dans l'horizon avec des phrases de papier de soie léger découpé, des volutes de fumée, l'écume des vagues aux crêtes déroulées, grande balade écrite tête baissée, pour enfoncer le mur de papier de la vie ordinaire, l'apparence bête de la vie admise, déchirer le faux, écrire pour surprendre le vrai, assassiner le factice. Ici, la vie crève. L'irréalisable flambe. Le non prévu, l'imprévisible. Le rire strident de la vie. Soudain, grand bateau amarré. Double départ. Double bateau. Double rêve, double voyage, double lumière au ciel balancé, dans l'eau qui se dissout doublement reflétée, double bonheur, bonheur de grand fond, la vie par 15 000 mètres de fond.
Grande balade, Claudine Huneau et Cédric Julien.
C'est une écriture qui se parle. C'est extrêmement rythmé. Alors, toutes les performances que je fais avec Cédric Julien, qui est musicien, c'est rendu possible par le jeu extrêmement musical, extrêmement rythmé de l'écriture de Bessette. Et elle a cette phrase extraordinaire. Elle dit « Ma manière vient des psaumes ». L'origine est là, mais elle va pouvoir dire aussi ma phrase est comme la phrase de jazz, lancinante comme la phrase de jazz. Elle est musicienne quand elle écrit. Et on peut le voir dans les livres, la manière dont elle dispose sur la page. Elle intègre le silence dans l'écriture. Elle intègre dans les blancs sur la page. Elle intègre le rythme de la parole. Donc, moi, quand j'ai lu ci, j'ai eu l'impression de l'avoir immédiatement dans le corps, le texte. Et chaque livre a une oralité singulière.
Ça dépote. Ça capte bizarrement le lecteur, en fait, quoi. Ça le douche froide.
Nathalie Quintane, poétesse.
C'est pas quelque chose de très plaisant immédiatement. Et en fait, elle arrive à faire quelque chose qui est très singulier, qui est à la fois de nous capter complètement avec quelque chose d'hyper fort et tranchant et de nous malmener. En fait, c'est ça qui est très particulier chez elle. Il y a très peu d'écrivains qui font ça, nous capter totalement et presque nous refuser ou nous repousser dans la lecture. C'est une crête difficile à tenir et elle la tient particulièrement bien.
Noëlle Renaude, autrice et metteuse en scène.
C'est une femme détonnante, revêche, qui vous lâche pas. Elle a une sorte de vitesse d'exécution dans l'écriture qui fait qu'elle ne vous lâche pas. Elle vous met à genoux, elle vous assomme, on finit, on est éprouvé, on n'en peut plus. Et je pense en plus que c'est un auteur qui... alors on dit des romans, moi je veux bien, oui c'est des romans. Mais elle a un principe narratif qui est quand même très particulier puisqu'elle ne génère jamais des socles. Des paysages, des socles de situation. En fait, elle n'agit que par le mot. Elle n'agit que par des mots qu'elle jette comme ça sur... Elle jette des mots sur une page, elle jette des mots dans le vide, elle jette des mots quelque part. Et ces mots-là vont donner à la fois le son et le paysage. Et en plus, elle a une sorte de... C'est pas de la revanche, parce que j'aime pas ça, l'idée de la revanche, mais elle est elle est mal embouchée quand même.
Elle débusque nos modes de jouissance. Et ça, c'est extrêmement contemporain. Alors, elle a une manière de... Comme si elle posait cette question, mais de quoi on jouit là ? Là où elle est assez étonnante, c'est que elle se trouve à écrire et à publier durant les Trente Glorieuses et toute cette période où finalement la société dans laquelle elle se trouve est en train de, dans un rêve d'accumulation de richesses et de richesses matérielles et d'une jouissance immédiate d'une vie matérielle très, très confortable, qui soit le plus confortable possible. Et c'est toute cette période où, en fait, on pourrait dire, vu d'aujourd'hui, on va aussi dans le mur. Et en fait, déjà, par exemple, dans un roman comme La Tour, où une femme gagne un concours radiophonique, donc elle gagne de l'argent, et puis elle va acheter avec ça, et puis elle va se perdre dans cette fureur d'achat, en fait, et se perd complètement, et ne sait plus qui elle est. Et donc, au moment même où la société de consommation se développe, Bessette est en train de nous dire mais finalement, de quoi on va jouir avec ça ? Qui on est ? Comment ça va nous transformer, au fond ? Cette avidité, cette hubris aussi, qu'est-ce que ça va faire de nous ?
La haine. Avant d'essayer toute tentative d'explication, savoir par cœur que la France est ce pays qui a été le théâtre de 3 guerres en 75 ans, dont une défaite désastreuse et 2 laborieuses manières de victoire. Voici le temps où la course continue tandis que râlent les blessés, où l'on renonce à aller jusqu'à des mineurs emmurés. Le temps de la nostalgie des émotions fortes. Dans ces années pétrifiées par la douleur, les mots de Novalis reviennent en mémoire. J'ai peur de cette affreuse ossification des cœurs, de cette consomption de l'âme. Au paroxysme de la douleur intervient une paralysie de la sensibilité. Après la peur des bombes, la peur des ruines. Le monde tissé de haine et de mépris. L'exiguïté insoutenable des cœurs. Le rideau de fer dans les regards.
C'est très moderne, oui, parce qu'elle considère que la fin de la guerre ne coïncide pas du tout avec la fin de la guerre dans les esprits et que le fascisme ou le nazisme qui a explosé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a continué. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui encore, on sent qu'il se développe encore plus. Elle sait que l'être humain fait perdurer ses mentalités de guerre et donc entretient le fascisme. Et en fait, elle rappelle une chose très importante qui est que la France a connu 3 guerres en 75 ans. Sedan, la défaite de Sedan en 70, et puis ensuite la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle considère que le roman ne peut pas être indemne de ça, ne peut pas sortir indemne de ces 3 guerres, de même que l'être humain non plus. Et pour illustrer cette déroute de l'être humain, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif, elle veut intégrer ces guerres, la mentalité de guerre aussi, et ce que ça charrie, la haine, le mensonge, à la fabrication du roman, aussi bien dans le fond que dans la forme, en fait. C'est pour ça que on trouve des phrases explosées, des fragments de mots éclatés sur les pages des livres de Hélène Bessette. Et elle veut vraiment faire en sorte que le roman intègre la démolition du langage et des mentalités.
Dans un entretien avec Jean Paget, elle cite Alain Bosquet qui parle de son œuvre en disant « la psychologie est simplette ». Pas de psychologie, pas d'intrigue vraiment, des personnages types. Est-ce que on pourrait dégager des schémas, des obsessions et même aussi une évolution dans son œuvre ?
Oui, alors schéma, obsession, ce qui est bien, c'est qu'elle prend aussi des choses universelles. Donc il y a notamment la question de l'amour et de l'argent. Voilà, elle se moque beaucoup de ses relations romantiques, de cette quête de la romance sous de multiples formes, parlant d'homosexualité aussi dans La Route Bleue, dans d'autres textes. Voilà, de ce rapport au désir et aussi au désir des adolescents, bon, ce qui lui a valu quelques problèmes judiciaires évidemment, puisque c'est aussi une peinture du désir féminin. notamment des jeunes femmes qui étaient absolument inacceptables à l'époque, moralement. Donc elle met vraiment en scène très souvent l'amour, dans Le bonheur de la nuit, c'est une sorte de vaudeville, voilà, il y a vraiment plein de façons dont elle diffracte cette question, c'est souvent le couple, voilà, l'amour amoureux, on va dire, qu'elle met en scène, il y a aussi la famille évidemment, mais c'est surtout ce rapport-là. Et l'argent, je disais, puisqu'il y a quand même, pour moi, dans les livres d'Hélène Bessette, c'est quand même une vision du monde capitaliste. Alors elle-même, biographiquement, c'est quelqu'un qui est dans une situation délicate, quoi, qui n'a pas de fortune personnelle, qui a été femme de ménage, qui est divorcée, donc qui a dû se battre toute sa vie pour essayer de, sans grand succès d'ailleurs, pour essayer de, voilà, d'avoir une place dans ce monde. Et c'est des choses qu'elle dépeint avec une acuité. La Tour, justement, je trouve que ce qui est à l'œuvre dans cette fascination pour l'ascension sociale via l'argent, ce fait d'accumuler les possessions et le parallèle qu'elle fait avec l'amour. Et elle met à jour de manière extrêmement cruelle et précise tous ces rouages de décomposition de l'amour à travers ce rapport social qui est biaisé.
Cette rupture inattendue dans les vies confectionnées, minutieusement, sournoisement, lamentablement, douloureusement, tragiquement confectionnées, les vies établies, construites. Soudain, sans l'avoir voulu, la rupture de l'étrange, le vernis de l'étrange, longue traînée dans la nuit mauve des vies lourdement, sourdement édifiées. On part, c'est le départ, on va essayer, s'il n'y a pas autre chose, si la médiocrité est la plus forte, on va tenter le destin, le défier. On va rompre avec l'habituel. On va se décider. On va forcer la vie à être belle. Et était-elle laide, belle de force, belle en lumière, bonheur de force, bonheur à volonté, voyage vers le rêve, dans le rêve, voyage réel, du réel vers l'irréel. Dans l'irréel.
C'est autant une poète qu'une romancière. Vous voyez, elle est juste sur la crête entre les deux. Elle s'est choisie un genre qui est quand même le roman, mais après elle a refagoté, refaçonné ça en appelant ça du roman poétique, en essayant de créer un gang du roman poétique, ce qui signifie qu'elle en avait peut-être assez d'être seule dans son cas. Dans La Tour, par exemple, c'était un roman en vers à l'origine. Donc, elle a gardé, dans le roman, elle a gardé un petit peu comme ça des mots qui riment entre eux, valable, rentable. Hein, le couple dont elle parle, qui est très proche du couple des choses de Pérec, se voit comme un couple valable, rentable. Et tout le sens affleure comme ça à la surface via ces sons-là, de ces reprises rimiques et rythmiques. C'est ça qui est particulier, voilà. Elle utilise vraiment tous les procédés qui font qu'un poème peut faire affleurer le sens par le son, par le signifiant, et pas simplement par ce qui est explicité dans le texte, pas seulement par le thème. Ça, elle sait très bien le faire.
C'est très très brutal comme écriture, et cette brutalité, elle vient effectivement du choc des mots, des allitérations, des consonances, c'est des assonances, des hiatus, ça crie, ça hurle. D'ailleurs, elle dit les verbes qu'elle utilise, c'est crier, hurler. En général, elle dit pas dit, voilà. Donc ça crie et ça hurle. Ça fait vraiment beaucoup de boucan, quoi. C'est des livres qui sont pleins de fureur.
Il y a la question de qu'est-ce que c'est s'émanciper ? Qu'est-ce que c'est se soustraire au pouvoir de l'autre ? Être enfin moi, seule. Et une thématique qui parcourt toute son œuvre, c'est la question des rapports de domination. Que ce soit entre hommes et femmes, donc là c'est extrêmement puissant, et elle a une audace, elle a un culot, mais c'est aussi
tous les rapports de domination qu'elle a éprouvés, en fait, professionnellement. Toute une partie de sa vie, elle est institutrice, donc les inspecteurs, mais pas seulement des hommes non plus, la directrice, la directra, comme elle l'appelle dans Materna, mais aussi le pouvoir sur l'enfant. Et ce qui distingue Bessette, c'est qu'elle sait très tôt qu'elle va faire œuvre.
L'endroit où on l'a toujours considéré comme écrivain, c'est ici, au 5 rue Sébastien Botin à l'époque, devenue rue Gaston Gallimard. Et c'est émouvant parce que elle signait d'ailleurs toujours ses tracts ou ses cartes de visite Hélène Bessette de chez Gallimard. C'était vraiment un attachement qui lui tenait particulièrement à cœur, un ancrage, cet endroit, ce bureau où elle venait pour rencontrer ses éditeurs, Raymond Queneau en particulier, mais aussi pour réclamer de l'argent parce qu'elle en manquait, elle en a manqué toute sa vie. Raymond Queneau, Claude Gallimard, Robert Gallimard, Gaston Gallimard, tout le monde la soutenait ici, dans cette maison, et pourtant elle se sentait aussi abandonnée par eux. On a le très beau portrait de Claude Gallimard qui nous regarde, on a une vue splendide sur les jardins, et on a ce canapé qui rappelle une lettre d'Hélène Bessette d'ailleurs, où au plus fort de son sentiment d'abandon, elle écrit à Raymond Queneau et à Claude Gallimard qu'elle désespère donc du manque de soutien de la maison, des faibles ventes de ses livres. Elle menace un peu et elle dit « J'ai besoin de votre aide et s'il le faut, j'adopterai une attitude révolutionnaire et j'irai occuper le canapé. » Et en voyant ce canapé dans ce bureau, je me dis « Peut-être que c'est là qu'elle faisait le siège de la maison pour repartir, sinon avec de l'argent, au moins avec un peu d'estime et de considération. » Donc en 1953 apparaît L'île pleure, suivi l'année d'après par Materna, puis par 20 minutes de silence. Materna et 20 minutes de silence obtiennent des voix au Goncourt, encouragées par Raymond Queneau. Et sa carrière est lancée, pourrait-on croire, en effet.
Ce qui est intéressant, déjà, mais très commercial. Alors, si on veut que la littérature continue à vivre, il faut évidemment se résoudre à accepter ce qui n'est pas commercial, ou tant soit peu.
Hélène Bessette.
Il y a toute une sorte de raison qui se mêle et qui crée des obstacles, et, n'est-ce pas, qui viennent briser l'élan. C'est très ennuyeux, surtout quand on sait qu'on ne se trompe pas. Évidemment, il y a des écrivains qui n'ont pas ces craintes parce qu'ils n'ont pas la liberté que j'ai, n'est-ce pas ? Ils appartiennent à un groupe. Par exemple, si quelqu'un du communisme apporte son livre, Aragon par exemple, on ne le lit même pas, je suppose. C'est Aragon, allez hop, c'est entériné. Ou bien si ça peut venir aussi d'un groupe catholique. La littérature catholique a ses puissances, n'est-ce pas ? Mais quelqu'un de tout à fait libre, qui n'est attaché à rien, n'est défendu par personne, n'est défendu par aucun groupe, en dehors des groupes, alors là, ça devient plus difficile.
Je ne sais plus si c'est dans « On ne vit que deux fois » où on lui pose la question « Êtes-vous affilié ?»« Ah, parce qu'il fallait être affilié. » Et elle ne sera jamais affiliée à quoi que ce soit. Pour moi, son combat rejoint puissamment, intimement, tout le mouvement d'émancipation des femmes, sans que jamais elle ne se revendique comme féministe. Et là, c'est l'humour qui permet le passage, en fait, de la colère, de l'indignation, de la revendication. Mais il y a toujours un humour qui fait qu'elle peut aller extrêmement loin dans la manière de disséquer les rapports de domination et la manière dont les femmes sont mises sous le boisseau, sont contraintes, sont conduites, sont dominées par le patriarcat, mais elle le fait avec une acidité et un humour extraordinaire. Mais elle touche juste tout le temps. Et elle touche très juste, y compris dans la propension de femme aussi à vouloir être dominée par l'homme. Elle le pointe à plein de moments.
elle est encore un peu limitée par ce qu'on pourrait considérer comme étant de la littérature de recherche, quoi, ou de laboratoire. Il y a quelque chose d'un peu expérimental que le public ne reçoit pas forcément. Et à la demande de Raymond Queneau, Hélène Bessette publie en 1956 un nouveau roman qui s'appelle « Les petites Lecoq ». Où, en gros, il lui dit « Bon, bah, ce serait pas mal de faire quelque chose de plus grand public ». Elle s'y soumet en disant qu'elle va faire un roman dans son style, à faire de l'argent.
Là, on a d'ailleurs une note de chez Gallimard, enfin une photocopie, avec le nombre de tirages et de ventes. Et effectivement, quand on regarde les ventes, Lily Pleur a dépassé les 1400, arrive presque à 1500 exemplaires, mais tous les autres sont à 200, 300, 800, 400.
Oui, parce que le roman poétique déroute. Et même si Bessette est admirée par les plus grands écrivains de l'époque, hein, dans le comité de lecture de Gallimard, on trouve Simone de Beauvoir, Guénaud, Marcel Arlan. À côté de ça, Bessette obtient aussi le soutien de Nathalie Sarraute, de Marguerite Duras. Eh bien, elle est considérée comme l'écrivain des écrivains, mais pas tout à fait l'écrivain d'un plus large public. C'est pour ça que, en 56, sort Les Petites Lecoq, qui doit être son roman plus...
son best-seller.
Plus général, ouais, plus généraliste, plus accessible. Et les ventes suivent, les libraires suivent aussi, jusqu'à ce que Madame Lecoq, qui une ancienne amie d'Hélène Bessette, se reconnaissent dans le roman et intentent un procès à Bessette et à Gallimard pour diffamation et outrage aux bonnes mœurs. À l'époque, elle confie sa plaidoirie à Roland Dumas, qui vient tout juste d'être élu député.
Il est jeune avocat, j'ai l'impression que vraiment il veut se faire, enfin il veut gagner ce procès, quoi. Avec tous les moyens possibles, notamment le fait d'éreinter la moralité de l'autrice. Ouais, il se dit, super, une femme divorcée, seule avec un enfant, qui va au cinéma, facile, qui écrit des livres. Comment elle arrive à publier ses livres? Donc il arrive à faire plein de petits sous-entendus absolument dégueulasses qui font mouche. Et donc on se dit, bon, bah, c'est, comme on disait à l'époque, c'est une femme de mauvaise vie. C'est son roman, dont du coup, est un roman de mauvaise vie. Enfin, et elle perd ce procès avec perte et fracas et dommages financiers, évidemment, et retrait du titre en librairie. Donc là, c'est vraiment une cassure, puisque symboliquement, elle se dit, bah voilà, au moment où j'essaie de prendre ma place dans ce monde littéraire, où je fais des efforts pour, voilà, je suis un peu plus gentille sur la narration, je reviens pas trop à la ligne, et paf, j'ai un coup sur le nez tout de suite, on me dit, non, c'est pas pour toi, c'est pas ton monde, retourne chez toi, retourne dans ton lieu obscur, puisqu'elle disait qu'elle était née obscurément, retourne là-bas très loin, qu'on n'entende plus parler de toi, fais la leçon aux gosses et arrête d'écrire, quoi.
Et le livre est retiré des ventes. Bessette doit payer une amende pour diffamation et outrage aux bonnes mœurs. Et Gallimard, un peu échaudé, décide d'arrêter, d'interrompre la publication pendant un temps de ses romans.
C'est une femme à histoire. On n'en veut plus. On n'en veut plus.
Garance Rose, 1965.
On ne sait pas ce qu'elle fait. Et on ne sait pas ce qu'elle a fait. Tu sais ce qu'elle fait ? Elle est toute la journée en robe de chambre. Parce que la maison n'est pas chauffée? Pour qui tu nous prends? Elle dit ce qu'elle veut bien dire. On n'est pas forcé de croire. Elle est toujours toute seule. Elle n'a jamais personne. C'est une laissée pour compte. Personne n'en veut. Il n'y a pas des amateurs? Bien recommandé. Ou bien c'est qu'elle a acheté une conduite parce qu'elle se sait surveiller. Elle a été au Brésil. Quoi faire? Ça ne se demande pas. Et ça ne se dit pas. Tu veux des points sur les i? C'est une forte tête. Ils ne peuvent pas la faire céder. Paraît qu'elle est entraîneuse. Ça déplaît pas, apparemment. Monsieur l'inspecteur, vous avez une institutrice. Elle était entraîneuse. Monsieur l'inspecteur épouvanté. Il en a jamais vu des entraîneuses. Il ne connaît que sa femme. D'abord, elle peut rien. Les collègues, elle peut rien. Les inspecteurs, elle ne peut rien. Un rappel à l'ordre, SVP. Il y a une femme là qui peut rien. Elle oublie quelque chose. Il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. Exactement, Madame de Garance a omis de mettre son soutien-gorge un jour d'été il y a 10 ans. Et le commis libraire de l'endroit a perçu par inadvertance ce que nul ne saurait voir. Il y pense toujours.
Elle est travaillée, en fait, elle est travaillée par sa condition. Alors, je ne sais pas si c'est sa condition féminine, sa condition de femme divorcée, sa condition de mère voilà, qui est abandonnée un peu, condition d'institutrice, condition de femme de ménage, on ne sait pas, sa condition de petite femme aussi, qu'elle est toute petite, sa condition de provinciale aussi, sa condition d'auteur non germano-pratine, parce qu'elle n'était pas, de Saint-Germain-des-Prés, elle n'était pas du clan, donc elle vient d'ailleurs, c'est une femme populaire, elle a réuni comme ça toutes ces espèces de, paramètres pour en faire un volcan.
Elle continue sa carrière d'institutrice, mais ça se passe pas très bien. Elle va continuer jusqu'en 61 où elle va vraiment décider de démissionner de l'éducation nationale. Mais il faudra 10 ans pour obtenir l'argent de sa retraite et 10 ans pendant lesquels elle va devoir faire des ménages. Elle devient aussi professeure de conversation dans des instituts de jeunes filles plus ou moins chic en Suisse. Elle va s'exiler aussi à Londres. Toute cette période est marquée par un exil permanent parce qu'elle développe un fort sentiment de persécution et pour échapper à ces persécutions, la seule solution pour elle, c'est l'exil.
Voilà, il y a pas mal d'errances dans plein de petites villes où elle a quelques valises qu'elle traîne avec elle et elle est pas mal femme de ménage et puis à un moment, elle essaie d'aller en Suisse. Mais ça dure pas longtemps. Elle va en Angleterre aussi à un moment, je sais plus très bien quand. Elle a le rêve d'aller aux États-Unis. Ça aurait été vraiment, elle était persuadée que ça aurait pu tout changer. Parce que bon, c'est le nouveau monde, c'est un autre monde. Voilà. Donc c'est un peu une vie d'errance jusqu'à la fin, quoi. Elle continue à écrire, mais dans la solitude la plus totale. Je pense qu'on n'a pas idée de la violence, du procès et de l'énergie qui l'a amenée à continuer contre vents et marées, contre tout, cette œuvre qui est immense. Je pense que ça l'a aussi épuisée émotionnellement, complètement.
La vie vient de crever. L'encre dans l'eau bleue s'est levée. Le navire blanc s'écarte. Surprise, surprise grande. Du temps clair suspendu, d'une rive à l'autre et des océans. Accroché d'une terre à l'autre, quand la vie tourne, l'étrange, tout feu dehors, le bonheur compté en méridien bleu. Longue nuit blanche, du voyage, entre l'avant et l'après.
Qu'est-ce qu'Hélène Bessette, romancière, vous a apporté dans votre écriture? Je dirais qu'elle pique et qu'elle pince, et que... J'ai un rapport de lectrice autant que d'écrivain avec Hélène Bessette. Je peux pas en tirer directement des leçons, par exemple. Elle est tellement pas à donner des leçons pour une ancienne institutrice. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, c'est pas une transfuge de classe au sens où elle a raté son transfert de classe. On sent qu'elle a cette âpreté. Et qu'elle conserve cette âpreté jusqu'au bout parce que aussi dans sa vie, eh ben, elle a jamais été que institutrice et puis femme de ménage. D'une certaine manière, c'est une institutrice, une femme de ménage qui a réussi dans l'écriture, mais seulement dans l'écriture. Et qui a raté. Oui, qui a raté tout le reste, tout ce qu'on attend d'un écrivain publié chez Gallimard, qu'il réussisse, qu'il ait une reconnaissance, etc. Bon, elle a eu une micro-reconnaissance avec Queneau et Duras, mais c'était vraiment très, très minime. Et puis, par ailleurs, elle s'est faite jeter, en réalité.
Et à ce moment-là, elle essaye de se tourner vers d'autres éditeurs. Mais c'est trop tard. Son œuvre est déjà faite. 13 romans, une pièce de théâtre, chez le même éditeur, à l'identité forte. Et elle va continuer à écrire. Elle n'est plus publiée. Mais elle va continuer à écrire. Elle a énormément, dans ses archives qui sont maintenant à l'IMEC, on découvre énormément d'inédits. D'ailleurs, Laure Limongi, quand elle a republié les livres d'Hélène Bessette, a commencé par un inédit qui s'appelle Le Bonheur de la Nuit. Et Benoît Viro, qui l'a publié aujourd'hui au Nouvel Attila, a aussi publié plusieurs inédits, dont Histoire du chien, mais aussi On ne vit que deux fois. Et il en reste encore énormément, parce qu'elle a passé sa vie à écrire. Elle était presque graphomane, on peut le dire, quand on est à l'IMEC, ça se ressent très fort. La quantité des archives est telle qu'on ne peut pas imaginer un jour de sa vie où elle n'ait pas écrit des lettres, des romans, des brouillons, ses manuscrits, bien sûr. Et d'ailleurs, jusqu'en 2000, il se passe encore 27 ans entre la dernière publication chez Gallimard et 2000, l'année de sa mort. Et au moment où elle va mourir, elle confie d'ailleurs à ses enfants cette phrase où elle dit « Ça ne va pas très bien, ça n'écrit plus dans ma tête. » Et c'est à ce moment-là qu'elle meurt.
En 98, avec Eric, on est allé la voir à Niort.
Donc 1998, c'est 2 ans avant sa mort.
Oui, c'est 2 ans avant sa mort. On était allé la voir un jour, miracle, coup de chance, elle nous a ouvert, elle nous a reçus. On est resté avec elle, on a passé 1 heure ou 2. Et puis on lui a dit, bon ben, nous on va rentrer. Et elle nous dit, attendez, j'ai écrit quelque chose, je peux vous le lire ? C'est un poème pour Adrienne. Ah ben oui, si tu veux. Et on s'est assis. Mais nous, on ne s'attendait pas à ce que ce soit ça. 2 heures. Elle nous l'a lu et elle nous a dit « C'est pas terrible, hein. C'est pas très bien. Faut que je revoie ça, c'est pas terrible. »
Et là, c'est cette version-là qui est publiée, qui est pas terrible. Vous pouvez nous en lire un extrait ?
Oui, oui. Je suis romancière. Tu le savais ? Tu l'avais appris ? Ainsi, je t'ai un peu oublié, écrivant l'histoire de milliards d'autres avant d'écrire la nôtre. La pauvre nôtre, à laquelle personne ne pensait. La seule, l'unique, la pauvre nôtre, sans passion, sans colère, sans mystère, avec broderie, tenue de gala, soirée, sourire, petit rire et tralala, giroflé, girofla. Le rideau grinçant s'est abaissé sur les maisons de carton. Le réverbère, personne n'a salué. Ton képi est ta grande poupée de porcelaine abandonnée sur l'avant-scène. J'ai omis de te dédicacer un service de presse. J'avais oublié ton adresse. Non, je ne l'ai pas noté lorsque tu es parti. De quel côté allait la Seine ce jour-là ?
Pourquoi il faut lire Hélène Bessette aujourd'hui ?
Je pense que c'est encore une œuvre révolutionnaire aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a énoncées. C'est une œuvre révolutionnaire, notamment, on a parlé de la dimension sociale, et qui est indémodable. Enfin, quand j'avais relu La Tour pour le republier, ça m'avait vraiment sauté aux yeux. C'est fou, ça décrit une société d'une autre époque. Alors, il y a toujours des mots un peu, il y a le blisant, par exemple, qui est dans Materna, je crois. Il y a des petits mots comme ça qui sont devenus désuets, mais à part ça, les situations qu'elle décrit, elle arrive vraiment à toucher à l'archétype et à l'essence des choses. Et ça, c'est très fort. Et la lecture d'Hélène Bessette, c'est une expérience, parce qu'elle est quand même très cruelle, elle a un humour très noir, ça crie beaucoup, c'est intense. Il y a une espèce d'énergie qui est vraiment une énergie particulière et qui peut être un peu épuisante. Mais je pense qu'on lit aussi pour ça. On lit justement pour se confronter à cette énergie-là. Il y a vraiment un avant et un après de la lecture d'Hélène Bessette. Je pense que notamment, enfin tout le monde doit lire Hélène Bessette, mais notamment les femmes et les jeunes femmes et les femmes qui veulent écrire, tout comme Virginia Woolf et plein d'autres autrices, évidemment Marguerite Duras, plein d'autres. C'est vraiment quelque chose qui peut marquer.
Merci à Patrick Brabant, Julien Doucineau, Laure Limongi, Claudine Huneau, Noël Renaud et Nathalie Quintane. Merci à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à Caen, Pascal Butel, Yann Dissèze, Stéphanie Lamache, à Sandrine Delaclos et Antoine Gallimard, à Benoît Viraud au Nouvel Attila. Lecture, Claudine Huneau et Patrick Brabant. Grande balade, Cédric Julion et Claudine Huneau. Prise de son, Virginie Lorda et Nadège Antonini. Mixage, Delphine Baudet. Archivina, Christelle Rousseau. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Sarah Masson, réalisé par Gaël Gillon. Oh, 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 oh
Mmh.